Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO, à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de notre balado-diffusion sur la glace, édition numéro 7, édition du 23 novembre 1995. Merci d'être avec nous. Pour la plupart des régions au Québec, on a eu droit à notre première bordée de neige, donc l'hiver est arrivé, semble-t-il, ou en tout cas se montre le bout du nez. Dans certaines régions, c'est un petit peu plus épique qu'ailleurs, mais bon pelletage, si jamais c'est le cas. Comme on dit, on n'y échappera pas, hein. C'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il n'y aura pas d'hiver. Alors, très content de vous retrouver. On a encore beaucoup, beaucoup de matériel pour vous cette semaine. On va évidemment amplement parler du camp d'équipe Canada Junior qui s'est mis en marche officiellement mardi dernier et qui bat son plein à Red Deer en Alberta. Il y a déjà eu deux matchs en fin de semaine. On va aller faire un tour d'ailleurs pour s'entretenir avec Luca Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown, qui est un des 9 représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à ce camp de sélection. On va écouter également quelques commentaires d'André Tourigny, l'entraîneur-chef, à la suite des deux matchs du week-end. On va évidemment beaucoup s'attarder aussi sur cette fameuse bulle de la LHJMQ qui a commencé mardi dernier. On est à mi-chemin, dans le fond, de cette bulle-là. Et ma foi, ça se passe quand même relativement bien jusqu'ici. Il y a eu des matchs à tous les jours depuis mardi dernier. Il y en aura encore toute la semaine jusqu'à vendredi. En principe, on va jouer 21 matchs au Centre Vidéotron à Québec, 7 formations qui vont jouer chacune 6 matchs. On va s'entretenir notamment avec Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada Blainville-Boisbriand. Enfin, on a recueilli ses commentaires à la suite de la victoire d'hier. L'Armada qui est 6-6 depuis le début de la saison et 4-4 dans cette fameuse bulle. On aura l'occasion d'y revenir. Également, une entrevue un petit peu plus tard avec l'entraîneur-chef Jean-François Grégoire du Drakkar de Baie-Comeau, à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le Drakkar qui a joué 3 matchs en fin de semaine face aux Foreurs de Val-d'Or et le Drakkar qui va prendre la route pour l'Abitibi pour aller rendre la politesse aux deux formations de l'Abitibi qui justement étaient de passage dans l'Est du Québec un petit peu plus tôt cette semaine, en fait jeudi, vendredi et hier. Une série de 3 matchs en 4 jours, donc on va revenir sur tout ça. D'abord, le camp d'équipe Canada Junior, vous savez, ça a commencé mardi dernier. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, les joueurs qui se présentaient, André Tourigny. Au total, 46 joueurs ont été invités. En fait, il y en a eu 47. Owen Power ne s'est pas présenté en raison de son statut de joueur universitaire. Son entraîneur à Michigan lui a convaincu de peut-être demeurer au Michigan, donc il n'est pas au camp. 46 joueurs, il y en a 2 qui se sont fait attendre. Ridley Gregg et Xavier Simoneau attendaient des tests de COVID. Finalement, ils ont pu rentrer à Red Deer et rejoindre les autres joueurs vendredi. Donc, ils n'ont pas pris part au match en fin de semaine. Également, les 3 joueurs de la NCAA qui sont au camp n'ont pas pris part au match du week-end aussi, car ils sont toujours en isolement de leur côté. On parle de Dylan Holloway, Alex Newhook et du gardien québécois Devin Levi. Donc, ces 5 joueurs-là, avec Simoneau et Gregg, n'ont pas joué les matchs en fin de semaine. Il y a eu 2 matchs en fin de semaine. Samedi, une victoire des Blancs contre les Rouges 4-2. Et hier, une victoire des Blancs contre les Rouges, encore une fois, au compte de 6-3. 2 buts dans un filet désert à la toute fin, c'était 4-3. Les Blancs ont ajouté 2 buts. Il y a des joueurs qui se sont particulièrement signalés au cours de ces matchs. Philippe Tomasino, entre autres, 2 buts et 3 passes dans ces 2 matchs. Connor Zary, 1 but, 3 passes. Et j'ai adoré également Kirby Dack, 2 buts et 1 passe. Ces 3 joueurs-là, à mon sens, ont été les meilleurs en fin de semaine, particulièrement Kirby Dack. S'il faut que la Ligue nationale ne commence pas sa saison le 1er janvier, Dax sera un élément absolument extraordinaire. L'expérience qu'il a pris dans la Ligue nationale l'an dernier en disputant 64 matchs avec les Blackhawks. Il a joué dans la bulle également avec les Blackhawks à Edmonton cet été lorsque les activités de la Ligue nationale ont repris. Il a été excellent. La suite des choses pour le camp d'équipe Canada. Demain, midi, heure de l'Est, il y aura un troisième et dernier match intra-équipe. Donc, 10h, heure de l'Alberta, midi, heure d'ici. Et pour certains, ben, ça va être le match de la dernière chance, car on a l'intention de retrancher entre 12 et 16 joueurs au terme de ce troisième match-là. On voulait avoir une quarantaine de joueurs pour commencer le camp, pour être justement capable de jouer des matchs intra-équipe entre les Rouges et les Blancs. Mais là, à partir de mercredi, on veut travailler avec un groupe plus restreint pour se préparer pour les matchs contre les équipes universitaires qui, eux, vont commencer en fin de semaine, samedi, dimanche. D'ailleurs, des matchs qui seront présentés à RDS, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, hier soir, au terme de ce deuxième match, j'ai participé à la conférence Zoom avec l'entraîneur-chef André Tourigny. On a fait un petit montage résumé de ses propos en français qui nous explique un petit peu la suite des choses pour les joueurs d'équipe Canada Junior à compter des prochaines heures.
Mon expérience me dit c'est toujours la même affaire. Après la première game, c'est blurry. Tu te demandes comment on va faire pour couper. Après la deuxième game, ça commence à s'éclaircir un petit peu. Tu commences à avoir un petit peu plus de réponses. Puis après la troisième game, c'est beaucoup plus clair. C'est assez clair. Donc, on va espérer que ça va dans ce sens-là. Mais ça ressemble à ça hier après le match. Il y a des meetings comme d'habitude. Puis, écoute, c'est difficile de séparer, de mettre la ligne où ce que. Où est-ce qu'on va couper ou les catégories de joueurs, tandis qu'aujourd'hui, ça s'est clarifié un petit peu. Il y en a qui ont gardé leur constance, il y en a qui se sont séparés un petit peu du groupe. Donc, ça va. L'évaluation suit son cours.
Dans un monde idéal, tu aimerais qu'il reste combien de joueurs après le match de mardi?
32 à peu près.
Continuer 32 pour les matchs contre les universités après, c'est ça?
Oui, exact. On va voir si on a des blessés, on va voir ces choses-là, mais on ne sait pas. Une chose qui est claire, on ne s'est pas mis de nombre fixe, on n'a pas de hard number. Là. C'est à peu près ce nombre de joueurs-là parce qu'on ne veut pas, justement. Se mettre un nombre, puis là, si on était indécis entre deux joueurs, mais à un moment donné, tu coupes un joueur, puis là, on ne veut pas le regretter. Donc, on se disait qu'on aurait entre 30 et 34 joueurs, donc 32 à peu près. Mais ce n'est pas un nombre qui est fixe. Ça peut être 30, ça peut être 34, ça peut être 32.
Alors voilà donc pour les propos d'André Tourigny à la suite du match d'hier soir, 30, 32, 34. Alors ça veut dire que si on est 46 en ce moment, il faut retrancher 12, 14 ou 16 joueurs. Un petit peu plus tard en anglais, il a également parlé de la situation des gardiens de but. On ne veut pas nécessairement garder non plus 5 gardiens de but plus longtemps. On sait qu'à la fin, il va rester 3 gardiens de but. Il y en a 2 qui vont être en uniforme à chaque match et un troisième qui sera là comme police d'assurance. On va commencer les matchs contre les Étoiles universitaires samedi et dimanche. J'ai l'impression qu'il y a au moins un gardien qui va quitter demain. Et évidemment, ce gardien-là ne sera pas le Québécois Devin Levi parce qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre encore. À propos de Levi, André Tourigny a dit s'il est déclaré là, que son isolement est terminé, il pourra vraisemblablement jouer la moitié d'un match demain. Lors du premier match samedi, on a fait travailler les 4 gardiens 30 minutes chacun, les 4 autres là à part Levi. Mais hier, c'est Gauthier et Brochu qui ont eu le match au complet. Donc, si Levi ne peut pas jouer demain, les 2 autres gardiens devraient voir de l'action. Là, on parle de Garand et de Lennox, mais ça se peut que Levi entre dans ce portrait-là aussi. On vous a parlé beaucoup depuis le début de la semaine lors de nos émissions 5 à 7, Hockey 360 et tout ça, des espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont présents au camp. Il y a un défenseur originaire du Nouveau-Brunswick qui est également au camp. Il s'aligne avec les Islanders de Charlottetown. Il est excellent. Il a marqué 15 buts à 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec il y a 2 ans. Il en est à sa 3e saison avec les Islanders, Lucas Cormier. Et je lui ai parlé un petit peu plus tôt ce matin. Aujourd'hui, ça devait être journée de congé pour les médias et les joueurs. Tout le monde devait être en congé aujourd'hui. Mais Luca a accepté de prendre quelques minutes depuis sa chambre d'hôtel à Red Deer en Alberta pour discuter avec les auditeurs de Sur la glace. Donc, je vous présente cette entrevue avec ce défenseur des Islanders de Charlottetown. Ça fait plaisir de retrouver à Red Deer le défenseur des Islanders de Charlottetown, Lucas Cormier. Lucas, tu as participé aux 2 matchs en fin de semaine. Il y a eu 4 jours de camp la semaine passée. Si tu me résumais ta semaine un peu depuis que tu es arrivé en Alberta.
Oui, bon, on a commencé avec des pratiques, puis là, ça a été à deux pratiques par jour. Puis là, les deux dernières journées, on a eu des games, donc ça va quand même bien assez, c'est le fun. Puis j'espère de pouvoir faire partie de l'équipe.
C'est quoi ton approche? C'était quoi ton approche quand tu es arrivé là? Il y a beaucoup de joueurs talentueux, tu en fais partie, il y a beaucoup de choix de première ronde, on a beaucoup parlé de ça. Tu as seulement 18 ans, des fois on dit que c'est plus une équipe qui est plus facile à faire à 19 ans. Il y a des gars qui l'ont fait évidemment à 17 et à 18, comme Jamie Drysdale l'an passé, entre autres à 17 ans. Tu vois ça comment, toi, cette année?
Oui, je pense que j'essaie juste de faire le mieux que je peux et de montrer ce que je peux faire. Je pense que je ne serais pas déçu si je peux montrer tout ce que je peux faire et travailler mon plus dur, toutes les pratiques et tous les games.
À venir jusqu'à présent, quand tu regardes les autres défenseurs autour de toi, as-tu l'impression que tu peux faire partie du groupe de 8 défenseurs ou qu'il faut que demain, vraiment, il y ait un troisième match et il va y avoir des premiers joueurs qui vont être retranchés? Est-ce que tu sens plus que tu es là ou si ça a-tu été à ton goût, finalement, les deux matchs en fin de semaine?
Oui, ben, je pense que je laisse confiance. Je pense que j'ai quand même des bonnes chances à faire l'équipe. C'est que je continue à travailler dur, puis ça va dépendre de ce que les entraîneurs cherchent, mais je vais... C'est ça, je vais garder la tête haute, peu importe, mais le but, c'est de faire l'équipe et je vais continuer à travailler dur pour atteindre ça.
Ça avait bien été quand tu as joué avec Hockey Canada, avec les moins de 18 ans puis tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ça joue en ta faveur là, pour se tailler une place dans l'équipe?
Oui, pour ça, c'est tout relié à ceci. C'est toutes les mêmes personnes qui te regardent jouer. Donc, c'est sûr, c'est relié un peu. Ben, cette semaine... C'est sûr, c'est un peu pour être invité au camp, mais quand tu es invité, il faut que tu te prouves au camp. Donc, c'est cette semaine, la grosse semaine. Puis ça va continuer à être après.
On s'entretient avec Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown, qui est en direct de sa chambre d'hôtel à Red Deer, en Alberta. Lucas, défenseur plus caractère offensif, des fois peut-être dans ton rôle plus pour animer l'attaque massive. C'est comme ça que tu vois ta place peut-être dans l'équipe, là?
Oui, c'est sûr que... Comme j'ai dit tantôt, je veux continuer à jouer ma game. Je trouve que c'est ça qui est important de jouer comme que je suis capable de jouer puis montrer ce que je suis capable de faire. C'est plus un défense offensif, mais c'est sûr que j'aime de bien jouer dans les deux sens de la patinoire aussi.
Il y a trois défenseurs au camp des équipes des Maritimes. Il y a toi, il y a Jordan Spence de Moncton, puis il y a Justin Barron d'Halifax. Vous êtes les trois joueurs qui aviez le plus de matchs joués de tous les joueurs quand vous êtes arrivés au camp, que ce soit les gars de l'Ontario, l'Ouest ou même les autres joueurs du Québec qui n'avaient pas joué autant de matchs. À quel point ça sert à votre camp à venir jusqu'à présent? Est-ce que tu as l'impression que vous êtes en avance à cause de ça?
C'est sûr qu'au début, on avait joué plus de matchs, mais on était plus in game shape, comme on dirait, mais je pense que tout de suite, ça fait une semaine qu'on pratique pas mal dur. On a joué deux matchs, je pense que tout le monde est pas mal rendu au même niveau d'avoir joué des matchs comme ça.
Tu viens du Nouveau-Brunswick. En quoi? Il n'y a jamais autant de joueurs des Maritimes qui réussissent à se tailler une place avec l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi là, de faire partie de cette aventure-là? Puis peut-être pour les gens de ton coin aussi, c'est Saint-Louis-de-Cannes, je pense. C'est ça ton village d'où tu viens?
Sainte-Marie-de-Cannes.
Sainte-Marie-de-Cannes, excuse-moi. Hein?
Oui, c'est sûr que je joue pour toute ma communauté. Puis. Ils sont pas mal derrière moi, puis c'est sûr que je tiens ça de mon cœur. Puis c'est. Ouais, ça va être fun de jouer, puis j'espère de faire partie de l'équipe pour. Ça serait vraiment le fun de faire un rêve de jeunesse.
Lucas, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton début de saison avec les Islanders de Charlottetown. C'est une des bonnes équipes de la LHGMQ depuis le début de l'année. Là, la fiche est excellente. 12 victoires, 2 défaites. Toi, tu ramasses beaucoup de points aussi. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de saison-là avec les Islanders quand ça a commencé là, dans les Maritimes au début du mois d'octobre?
Oui, c'est ça qui est le but pour notre saison cette année. On veut se rendre jusqu'au bout. On a été chercher Colton comme gardien à la draft. C'est probablement le meilleur gardien de la ligue, donc c'est sûr qu'on allait avoir une bonne équipe. Puis j'espère que ça continue, on va bien en équipe, puis c'est sûr que ça amène le succès personnel aussi, mais on veut continuer à gagner, puis le but cette année, c'est de se rendre au bout.
Est-ce que tu arrives dans ta chambre d'hôtel à suivre les matchs un petit peu de ton équipe, même pendant que tu es là-bas?
Oui, le premier match, j'ai juste pogné les derniers 10 minutes, puis les autres matchs après ont été consolés, donc... Je ne sais pas ce qui va se passer après ceci, mais ouais, s'il y a des matchs que je peux regarder, c'est sûr que je vais les regarder.
On a parlé à Jim Holton la semaine passée dans notre podcast, puis il nous disait que du bien de toi, puis il dit c'est sûr que si Hockey Canada veut un défenseur pour justement animer l'attaque massive, Luca Cormier, c'est le bon gars. C'est quoi ta relation avec Jim? C'est un entraîneur qui a beaucoup de succès depuis qu'il est à Charlottetown. Comment tu gères ta relation avec lui? Ça se passe bien? On le connaît moins, on dirait, nous, au Québec, parce qu'il dirige à Charlottetown, mais c'est un entraîneur qui a beaucoup de vécu, là.
Oui, c'est un très bon entraîneur, lui. Puis nos assistants aussi, Guy Giroir et Kevin Anderson, on est chanceux d'avoir des bons entraîneurs de même. Ils nous poussent à chaque jour pour être le mieux qu'on peut être. Puis ils sont quand même ils sont très respectueux des joueurs. Puis on les apprécie beaucoup comme coach.
Un petit mot avant de te laisser sur ton coéquipier, Cédric Desruisseaux. 13 matchs de suite avec un but, c'est quand même assez exceptionnel.
Oui, c'est. C'est pas mal après ce qu'il a été depuis le début de l'année direct au training camp. On pouvait dire qu'il était, était une coche de plus haut que l'année passée. Toute sa vitesse et tous les shots qu'il prenait, il rentrait. Donc, c'est après ce qu'il a de voir ça. J'espère qu'il continue.
Ben écoute, Lucas, on va te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Demain, c'est un gros match sur l'heure du midi. Même si c'est le matin pour vous, demain matin à 10h, mais pour au Québec, c'est sur l'heure du midi. On va annoncer après ça quelques joueurs qui vont quitter. On va espérer qu'on n'entende pas ton nom là-dedans et que tu puisses poursuivre l'aventure. Merci beaucoup, Lucas.
Merci, Stéphane.
Salut.
À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Alors voilà donc pour cette conversation avec Luca Cormier, défenseur qui est au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour le nombre de points depuis le début de la saison. 7 buts, 14 passes, 21 points en 13 matchs. Il a été choisi le joueur défensif par excellence au mois d'octobre. Un choix de troisième ronde des Knights de Vegas lors de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, défenseur qui... Il n'est pas assuré de sa place, évidemment. Il n'a que 18 ans. Dans son cas, si jamais ça ne fonctionne pas cette année, il aura toujours l'occasion de revenir l'an prochain. Mais c'est un espoir quand même intéressant là, pour Hockey Canada, un gars qui a connu du succès à la Coupe Linka Gretzky également il y a 2 ans. Alors, on verra bien ce que l'avenir lui réserve à court terme à ce camp et à long terme également dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Islanders de Charlottetown. Je vous parlais également en début d'émission de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui est amorcée depuis mardi dernier. Il y a eu plusieurs matchs qui ont été présentés au centre Vidéotron. Au cours des dernières semaines, je m'amusais à dire bon, on a toujours nos matchs dans les Maritimes en fin de semaine, pas beaucoup de matchs au Québec. Bien, lors de la dernière semaine, ça a été un peu le contraire parce qu'il y a eu 2 cas de COVID, 2 éclosions là, dans les Maritimes. Il y a un membre de l'organisation des Sea Dogs de Saint-Jean mercredi dernier. Qui a testé positif à la COVID. Alors, on a mis les activités des Sea Dogs sous arrêt. Comme les Sea Dogs avaient joué contre les Eagles du Cap-Breton, on a aussi tout stoppé au Cap-Breton. Et quelques jours plus tard, on a appris que c'était également un employé des Moussets d'Halifax qui avait testé positif. Alors, on a mis Halifax en arrêt aussi, de sorte que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs en fin de semaine dans les Maritimes. Il y a eu un match en fait vendredi entre le Titan et les Moussets et ça a été assez tranquille. Par contre, au Québec, bien, il y a eu tous ces matchs-là présentés dans la bulle et il y a aussi eu les 2 équipes de l'Abitibi qui se sont rendues dans un week-end. On devait jouer, ça c'est assez rigolo d'ailleurs, les Phareurs de Val-d'Or devaient jouer 2 matchs à Baie-Comeau jeudi, vendredi, prendre le traversier samedi pour s'en aller à Rimouski jouer un match contre l'Océanique dimanche. Et les Huskies, le contraire, avaient joué 2 matchs à Rimouski jeudi, vendredi, devaient prendre le traversier pour s'en aller à Baie-Comeau pour jouer un match dimanche. Le traversier F.A. Gauthier a encore une fois eu des problèmes. Ça, c'est un problème assez récurrent. Ça n'a rien à voir avec la COVID. De sorte que, finalement, bon, on a été obligé de rester un 3e match. Les Phareurs ont joué un 3e match à Baie-Comeau et les Huskies ont joué un 3e match à Rimouski. Alors, un peu comme au baseball, on a fait une série de 3 matchs en 4 jours. Les Huskies ont récolté 5 points sur une possibilité de 6. Les Phareurs ont aussi récolté 5 points sur une possibilité de 6. Le Drakkar qui, hier, a stoppé sa série de défaites avec une victoire en tir de barrage. Pour revenir à la bulle, ça fonctionne bien. Honnêtement, on avait des réticences au départ là, avec l'entrée tardive des Voltigeurs de Drummondville. On a été obligé de remanier le calendrier à quelques occasions. Mais j'ai suivi plusieurs matchs la semaine dernière. Premièrement, je veux lever mon chapeau aux dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La qualité de la web diffusion au centre Vidéotron, c'est excellent. Si vous avez suivi les matchs, sincèrement, là, c'est comme une presque comme une production télévisuelle professionnelle qu'on voit. Tu sais, si en certains endroits, on peut se plaindre des fois de la qualité des caméras, de la qualité de l'éclairage, de la façon dont on voit le match, je vous assure qu'à Québec, il n'y a aucun problème. Vous allez très bien voir ce qui se passe et ça nous a permis de suivre beaucoup de matchs au cours de la dernière semaine. Puis, notamment dans l'après-midi, vous avez du temps pour ouvrir votre ordinateur pendant que vous êtes en télétravail, bien, vous pouvez peut-être regarder le match. En tout cas, la qualité est excellente. Et pour revenir à ce qui s'est passé sur la glace jusqu'à présent, bien, il y a eu 11 matchs. Et les deux équipes qui dominent cette bulle-là présentement, c'est l'Armada de Blainville-Boisbriand avec 4 victoires, aucune défaite. Et les surprenants Olympiques de Gatineau, 3 victoires, aucune défaite. Une des équipes les plus jeunes du circuit qui fonctionne très bien. C'est plus difficile pour Drummondville et Shawinigan qui ont chacun subi 3 défaites. Les Remparts ont gagné 2 matchs, en ont perdu un autre en bris d'égalité. Chicoutimi a gagné 1 match, en a perdu 2 à bris d'égalité. Et les Tigres ont eu un petit peu de difficulté aussi avec une seule victoire en 3 matchs. Ça se poursuit toute la semaine. Demain, il y aura un match intéressant. Demain après-midi, 14h, le 24 novembre, alors que les Olympiques vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les deux équipes qui ont des fiches parfaites pour l'instant dans cette bulle de Québec. Hier, après le match entre l'Armada et les Voltigeurs de Drummondville, je me suis branché encore une fois sur la conférence d'après-match. Pour discuter un peu, écouter les commentaires des entraîneurs et surtout avoir un petit peu le pouls, parce qu'évidemment, on peut pas être là, nous, en tant que journalistes, assister au match et se promener dans les hôtels où habitent les équipes. Et on a posé la question à Bruce Richardson sur, bon, l'aspect hockey, on sait que ça va bien, là, son équipe a 6 victoires, aucune défaite. Mais comment ça se passe vraiment dans la bulle comme telle au quotidien là, depuis l'arrivée de l'équipe lundi dernier à Québec? Écoutez bien ses commentaires, il m'a beaucoup fait sourire.
C'est encore plus difficile avec toute la situation, avec notre éclosion. Je pense que les gars ont bien ça. Il faut leur donner crédit. Là. Ça a été difficile les derniers mois. Puis quand ils viennent à l'aréna, ben, ça leur donne la motivation de vouloir bien performer. Puis, ça fait aussi 2 ans là, qu'on a fait un virage puis qu'on a bâti ces gars-là. Fait que, puis là, on arrive à maturité. Fait qu'espérant qu'on peut continuer dans cette lignée-là, puis que les gars vont continuer à acheter ce qu'on leur montre, puis qu'ils vont vouloir continuer, puis ça devient contagieux, là, ces affaires-là. Quand tu gagnes, ça devient contagieux, puis les gars, ils prennent goût, puis ils veulent continuer. Honnêtement, c'est écœurant. Sérieux, c'est le fun au bout. Moi, là, c'est drôle parce qu'on est avec les gars 24 heures sur 24, là. Tu sais, pendant la saison, là, moi, je retourne chez nous le soir, puis je soupe pas avec les gars, je déjeune pas avec les gars, je dîne pas avec les gars. Là, je fais les périodes d'études, c'est moi le professeur, avec Kevin Bergen, qui est dans l'autre salle. On soupe avec ces gars-là, ils nous font rire, ils ont du fun ensemble. On apprend vraiment à connaître nos joueurs, tu sais. Puis on est le staff aussi, fait qu'on a le temps beaucoup de passer du temps ensemble, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de s'améliorer. On peut faire des rencontres individuelles. T'sais? Fait que c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si tu poserais cette question-là à ma femme, elle dirait la même chose.
Alors voilà donc pour Bruce Richardson qui, comme vous le voyez, est assez dithyrambique face à l'ambiance de la bulle à Québec. J'ai l'impression que les joueurs qui vivent ça cette année vont s'en rappeler toute leur vie. Parce que oui, c'est pas une saison évidente, c'est pas une saison facile. Du côté de l'Armada, là, on a été 6 semaines sans jouer de match à un certain moment. Alors, c'est certain que oui, on va se rappeler que la saison 2020-21 s'est pas jouée dans les règles de l'art. Mais pour les 7 équipes qui participent à cette on peut appeler ça un tournoi, là, même s'il n'y a pas de trophée à donner à la fin. Ce sont des matchs du calendrier régulier. Moi, j'ai l'impression qu'on va retenir quelque chose de tout ça. Et c'est vrai ce que Bruce Richardson dit. On a la chance de développer l'esprit d'équipe, de passer du temps ensemble. L'école à l'hôtel, on supervise le tout. On peut faire des jeux ensemble. Il y a des tournois de Xbox et tout ça. D'ailleurs, parlant de Xbox, la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue canadienne de hockey a lancé une Coupe Memorial électronique. Alors, consultez le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Chaque formation au pays va déléguer un représentant. On aura l'occasion sûrement de reparler de tout ça dans quelques semaines. On va laisser le processus partir, mais il y aura une Coupe Memorial e-electronic cette année pour les joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Mais pour compléter sur ce que je disais à propos de l'Armada, moi, je pense qu'il va quand même y avoir du positif dans tout ça, même si ce n'est pas une saison évidente. Luke Edmund, justement, l'attaquant de 20 ans de l'Armada Blainville-Boisbriand, a été choisi joueur de la dernière semaine. 4 buts et 6 passes pour 10 points en 4 matchs au cours des derniers jours. Edmund qui n'a pas volé sa sélection. Miguel Tourigny connaît également de bons moments. Le défenseur avait inscrit 7 buts à ses 4 premiers matchs. Il n'a pas marqué là, ses 2 derniers matchs, mais il a quand même 7 buts en 6 matchs depuis le début de la saison. Joue de l'excellent hockey. J'ai suivi quelques matchs de l'Armada la semaine dernière et il est vraiment excellent. C'est bien relevé malgré le fait qu'il a été ignoré lors de la séance de sélection de la Ligue nationale. Un petit mot également sur Cédric Desruisseaux. J'en ai parlé tantôt avec Lucas Cormier. Il a obtenu un but dans un 13e match de suite mercredi dernier. Et là, malheureusement, sa série n'est pas terminée, mais elle a dû être sur pause puisque les Islanders de Charlottetown n'ont pas joué en fin de semaine en raison des éclosions de COVID. En principe, le mercredi, le Titan devrait être le visiteur à Charlottetown. Pour l'instant, le match tient toujours. Et si Cédric Desruisseaux réussit à marquer un but, il obtiendra un but dans un 14e match de suite, ce qui égalerait la plus longue séquence des 20 dernières années dans la LHGMQ, qui appartient à Sidney Crosby avec l'Océanique de Rimouski en 2004-2005. Et il est à moitié chemin, si on veut, du record absolu de la Ligue junior majeure du Québec, qui appartient à Pierre Larouche des Éperviers de Sorel de 73-74, qui avait eu une séquence de 27 matchs avec au moins un but. Alors, Desruisseaux est rendu à 13. C'est loin encore. Mais c'est quand même une des plus longues séquences des 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vous parlais un petit peu plus tôt également des formations de Baie-Comeau, Rimouski, Val-d'Or et Rouyn là, qui se sont affrontées en fin de semaine et qui vont rendre la politesse l'une à l'autre le week-end prochain. Cette fois, ce sera Baie-Comeau et Rimouski qui vont aller faire un tour en Abitibi pour aller jouer contre les Huskies et les Foreurs. Alors, ces 4 formations-là ne sont pas dans les zones rouges présentement, donc ne sont pas en arrêt. Et ce matin, ben, j'ai fait un brin de jasette avec l'entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Jean-François Grégoire. On a touché plusieurs sujets, évidemment la tenue de son équipe depuis le début de la saison, comment on a réussi là, à passer au travers jusqu'à maintenant du côté du Drakkar. Et vers la fin de l'entrevue aussi, j'ai pris des nouvelles de ses 2 fils, parce que lui, il a 2 fils, Thomas et Jérémy. Jérémy qu'on a bien connu avec le Rocket de Laval notamment, qui évoluent tous les deux dans la Ligue américaine de hockey. Et qui, eux aussi, malheureusement, là, sont en attente de la suite des choses. Donc, voici cette entrevue avec, toujours sympathique, Jean-François Grégoire du Drakkar de Baie-Comeau. On retrouve dans son bureau au Centre Henry Leonard, Jean-François Grégoire du Drakkar de Baie-Comeau. JF, premièrement, un mot sur ton début de saison. En plein camp d'entraînement, tu apprends que tu deviens entraîneur-chef à la place de John Goyens. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu venir? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais?
Ben non, parce que ça s'est fait comme 2 jours avant. Il n'y a pas eu de pourparlers ou rien. Tu sais, des fois, là, des questionnements, tout ça, ça. Tout le monde était un peu par surprise, évidemment. Mais on servirait de bord, puis on a fait en sorte là, de... C'est sûr que le camp d'entraînement, il y a des choses mises en place. Là, tu sais, quand même, Pierre Rioux avait travaillé sur le camp d'entraînement. Mais dans mon rôle à moi, il y avait des choses que c'était pas mes dossiers. Là, fait qu'on s'est ajusté.
On dit toujours que c'est difficile pour un adjoint de devenir entraîneur-chef de la même équipe après avoir été adjoint. Est-ce que tu as senti que la transition était difficile? Ou?
Non, ça s'est bien fait. Là. C'est sûr que on a quand même, on avait 11 nouveaux. Là. Ça faisait en sorte que c'est un petit peu une situation différente. Le contexte est différent qu'une équipe qui est établie avec plein de joueurs qui reviennent. Mais non, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'au début... c'est pas la préparation de l'été, je l'ai pas eu. Fait qu'il y a des choses, je me suis servi de mon expérience, des gens que j'avais travaillé avec aussi dans le passé là, pour établir mes choses. Mais on y allait quand même des fois, là, semaine à semaine. Il fallait s'ajuster. Là. Fait que, ça a bien été.
On a beaucoup parlé de la fameuse bulle là, que les 7 équipes vivent à Québec présentement. Dans les Maritimes, ça se passe bien aussi. Vous autres, Rimouski puis l'Abitibi, ça se déroule quand même pas si mal, compte tenu qu'on arrive à la fin novembre. Vous avez quand même réussi à jouer 12 matchs. Je sais que vous avez joué souvent contre Rimouski. Vous avez joué pas mal contre Val-d'Or en fin de semaine. Comment tu analyses ça, ces 12 matchs-là? 4 victoires, 8 défaites, premièrement l'affiche, puis peut-être aussi la façon dont ça s'est déroulé, tu sais, de jouer toujours les matchs contre les mêmes formations. Hein.
Ouais, ben c'est un contexte particulier. Je te dirais que sur les 8 défaites, t'sais, on ne s'est pas fait sortir là, de la glace là, ben souvent. Je te dirais que peut-être un match qui était plus difficile, là, c'est ce vendredi, là, parce qu'on était un petit peu plus brouillon. Les gars étaient impatients, on veut gagner, puis tout ça. Puis des fois, on va jouer plus avec les émotions que notre tête. Mais ça, c'est quand même, pour le niveau de l'affiche, ça s'explique un peu, évidemment. On connaît un peu notre line-up. Mais la particularité, évidemment, de toujours jouer contre les mêmes, c'est que tu fais un match, puis après ça, tu peux apporter les correctifs, puis le mettre en place contre la même formation. T'sais, on n'a pas à. Exemple, ce qu'on a amélioré dans un match, après ça, jouer contre une autre équipe qui joue différemment, puis là, il faut que tu prépares un autre système. Ça, au moins, ça nous a permis de faire en sorte de stabiliser certaines facettes qui étaient vraiment concrètes à l'équipe contre laquelle on jouait, là, sans se promener d'une équipe à l'autre.
Vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là, mais peut-être que pour vous, l'absence des deux Européens fait plus mal qu'ailleurs, là, parce que Demchenko et Hansen, ça aurait été des éléments, je pense, assurément ton top 6. Puis là, ben, je regardais le nombre de buts marqués, le 27 buts en 12 matchs, l'offensive n'est pas toujours là. T'sais, tu peux pas toujours demander à Nathan Légaré de compter 3 buts à chaque match non plus. T'sais. Alors, c'est difficile un peu pour vous autres. Hein?
Ben évidemment, oui, comme tu mentionnes, là, c'était, je regarde le tableau, fait qu'il était top 6, puis il était dans le top 6, évidemment. Ça fait en sorte que des joueurs qui sont dans une chaise qui ne sont peut-être pas, mais qui ne lui conviennent pas. Présentement, la bonne nouvelle pour nous, c'est que si on prend un gars comme Brandon Fattaroli puis Julien Hébert, c'est bon, là, eux, ils ont eu à monter. Puis je te dirais, là, depuis 4 matchs, là, ils vont bien. Là, au début, c'est un peu plus dur, mais là, ça se place. Ce qui est difficile quand que tu changes de chaise, c'est que des fois, les joueurs font l'erreur de changer leurs identités vu qu'ils sont rendus dans un rôle qui est plus offensif. Puis des fois, c'est une erreur que les gars font. Mais ça a bien été. Côté équipe, il faut apprendre à aller au filet puis aller chercher des secondes chances. Le fait qu'on ne marque pas beaucoup de buts, souvent, c'est qu'on reste un petit peu en périphérie. Fait que, on travaille de ce côté-là. Mais c'est sûr que tout ça, c'est une question de confiance. D'attaquer puis s'imposer en avant du filet, c'est ça va avec la protection de rondelles, d'être fort sur la rondelle. Mais ça, il faut que tu sois confiant pour faire ces choses-là. Puis c'est ce qu'on travaille présentement.
T'as-tu senti la grande déception pour Nathan Légaré quand il n'a pas été invité pour l'équipe Canada Junior? Pour lui, c'était comme la dernière chance, puis je pense qu'il pensait, puis nous aussi, on était plusieurs qui pensions qu'il avait peut-être sa place, mais finalement, ça ne sera pas le cas. T'as-tu senti quelque chose en lui pendant les jours qui ont suivi?
Oui, puis tu sais, avec Nathan, j'ai une bonne relation, puis avec Pierre, on l'a rencontré, on a parlé avec, puis il nous a donné un peu ses états d'âme, puis c'est normal, tu sais, comme tu as mentionné, il savait, puis il espérait, mais c'était sa dernière chance. Mais tu sais, un coup que la déception est passée, il a continué. Puis, dans le fond, ce qu'on travaille avec lui, c'est de le préparer pour l'année prochaine. Lui a déjà signé pro. Si on veut l'aider à passer à l'autre niveau, de faire en sorte que sa façon de jouer s'en aille vers ça. Puis, tu sais, il y a une bonne progression de ce côté-là sur 200 pieds. Hein.
Vous avez joué 12 matchs, on l'a dit tantôt. On avait joué 10 à Bécomo. Est-ce qu'à quel point ça va peut-être faire du bien un peu de prendre la route cette semaine, même si c'est pas un voyage facile là, de s'en aller jouer les deux équipes de la BTB, 12 heures d'autobus puis tout ça, mais à quel point ça va peut-être faire du bien aussi?
Ouais, tout ce qui va faire du bien, c'est qu'on va pouvoir. Les voyages font en sorte que les liens se créent, les gars sont ensemble, puis ça, on l'a pas vécu. Puis ça, je suis content de ça. On va partir, on part demain mardi, puis on revient là, lundi dans la nuit. Fait qu'on va être ensemble beaucoup de temps, on va essayer d'organiser des choses. Fait qu'on va essayer de profiter pour faire un team building puis bonding pendant ce voyage-là. Puis l'autre chose, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on va jouer sur deux petites patinoires. Tu sais, Rouen puis Val-d'Or, c'est des petites patinoires. Puis c'est nous, ce qu'on en est rendu, quand on joue sur la route, ben, ça apprend à jouer une game de route aussi. Là, on dirait que des fois, c'est plus facile pour certains. On dirait qu'on est à la maison, on veut en faire plus des fois. Puis là, on va être capable de voir comment les gars vont se comporter. Puis dans un contexte où on dit qu'il n'y a pas de fans. Puis évidemment, oui, il n'y a pas de fans, mais on dirait que jouer à la maison, des fois, c'est pas vu de la même façon. Je ne sais pas pourquoi, là, mais on travaille là-dessus.
Jean-François, je vais mettre un peu l'entraîneur de côté pour parler au père. Tu as deux fils qui jouent dans la Ligue américaine, qui sont sur le neutre en ce moment, j'imagine, Jérémy puis Thomas. Comment ils vivent ça, eux, en ce moment? Ils sont où? Ils font quoi? Comment on se prépare? Toi, tu es un gars de hockey, tu es peut-être là pour les aider aussi, mais comment ça se passe pour eux?
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme ils le souhaitaient, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Hey, ça se passait bien là, jusqu'à temps que l'Estrie tombe en zone rouge. Là,
ouais.
Là ils n'ont plus accès à l'aréna, ils n'ont plus accès au gym. Je pense que ce qui est plus difficile présentement, c'est de ne pas savoir. C'est un peu l'inconnu. C'est la Ligue nationale, c'est pas encore décidé quand ça va recommencer. La Ligue américaine, ils ont annoncé le 5 février, mais honnêtement, plus les choses vont, moi-même, je commence à en douter. Je ne veux pas, en vivant ce que je vis ici, c'est beaucoup de changements. Puis les décisions se font rapidement, puis les choses changent vite. Ils ont eu des appels pour aller en Europe. Par exemple, c'était des transferts. Fait que ça, à une certaine date, là, de mettre un terme à leur contrat pour aller en Europe avec l'organisation respective, San Jose, puis avec Tucson, c'était pas considéré. Là, bien évidemment, avec ce qui s'en vient, c'est de voir, dans le fond, c'est un gamble. Est-ce que la Ligue américaine va recommencer? Puis ça recommence en avril, puis que tu finis d'aller en Europe au mois de mars, ça, c'est quelque chose à considérer. Fait que là, je sais qu'ils sont en attente de quelque chose. Là. Fait que si toutes les choses tombent à la bonne place, c'est quelque chose qu'on peut être considéré de s'en aller en Europe, parce que c'était en KHL puis en Finlande qu'il y avait des pourparlers.
Point de vue hockey, as-tu l'impression que ça les aiderait?
Oui, parce que faut que tu joues. Hein? Fait que ça permettrait de jouer, voir d'autres choses aussi. Puis après ça, si ça recommence, puis tu reviens, puis tu joues en Amérique quand d'autres n'ont pas joué, parce que les plus jeunes jouent, mais les plus vieux ne jouent pas. Là. L'autre chose quand même qui a aidé, tu sais, veux pas, le temps que, exemple, que je prends pour Tom, qui a passé dans le gym, tu sais, il était capable de travailler sur son physique, puis ça, la tête est là. Puis lui, déjà, il a donné des cours de hockey, fait que, tu sais, ce qu'il me disait, c'est que de donner les cours à des jeunes, ça lui a fait voir aussi d'autres choses, tu sais, fait que, aussi à chercher le positif dans toutes les situations, là, mais là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui, pour un certain temps, qui ont profité. Mais là, c'est sûr qu'ils ont hâte de jouer. Ils commencent à être impatients un petit peu. Là.
J'ai juste envie de terminer, d'essayer de te faire sourire un peu. Ça m'a fait bien rire vendredi quand j'ai appris que même le traversier s'en mêlait, puis vous n'étiez pas capable de changer d'adversaire. C'est un sujet à Bécomo qu'on parle beaucoup, j'imagine.
Ah oui, c'est incroyable. Je dis, tu sais, quand Pierre m'a dit ça, ils ont, là, on a tout vu. Là, on passait d'avoir justement la chance de rejouer contre une autre équipe, Rouen, qui a été la troisième dans les dernières semaines. Puis là, que tu apprends que le bateau est brisé, tu ben là, m'en est laissé le bout. Là. En tout cas, c'est ça. Mais encore là, on dirait que c'est le contexte. Honnêtement, on est tout le temps au jour le jour, puis après ça, on s'ajuste, puis garde. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au moins on joue. Qu'est-ce qui était plaisant? Bon, premier match contre Val-d'Or, on s'en est quand même assez bien sorti. Vendredi, ça a été plus difficile. T'sais, on avait une équipe qui patinait, puis nous, vu qu'ils patinaient vite, on était un peu mêlés. Puis hier, en jouant un troisième match comme ça, on était capable de se prouver qu'en faisant les bonnes choses, puis qu'on est capable de compétitionner contre eux. Fait que si on avait joué Rouen, il y a des choses qu'on a préparées samedi qu'on n'a pas appliquées, on n'aurait pas pu appliquer tout de suite. Fait que là-dessus, au moins, on a gagné quelque chose quand même, là, côté là, progression d'équipe là-dessus. Là.
Ben Jean-François, bonne tempête de neige, bon voyage en Abitibi. Ah, je sais que merci. Dans votre coin, la neige arrive. Là, alors, bon voyage, puis bonne chance pour le reste de la saison.
Merci beaucoup. Merci.
Alors là, Jean-François Grégoire qui faisait le point un petit peu sur le début de saison du Drakkar. 4 victoires, 8 défaites. C'est une formation qui est jeune. Leurs 2 Européens ne sont pas là. Vous allez me dire que c'est la même chose pour plusieurs équipes, mais peut-être que dans certains endroits, ça fait plus mal que d'autres. Et à Bécomo, c'est certain que et Hansens et Demchenko auraient fait partie là, des joueurs extrêmement importants pour la formation de la Côte-Nord. Il va donc jouer 2 matchs à Rouyn-Noranda jeudi et vendredi et va se rendre à Val-d'Or dimanche. Et la bonne nouvelle, c'est que pour aller de Rouyn à Val-d'Or, il n'y a pas de traversée en Abitibi. On prend la route 117. Seulement, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des orignaux, mais il faut, faut juste faire attention. C'est une petite blague pour terminer. Il faut bien en rire. Notre F.A. Gauthier qui fait beaucoup parler, là, ce bateau qui relie Godbout et Bécomo à Matane. C'est pas facile. Donc, je vous rappelle pour terminer ce qu'on surveille au cours des prochains jours. D'abord, ce match mardi, match de la dernière chance pour certains espoirs au camp d'équipe Canada junior. Midi heure de l'Est et vous pouvez suivre ça sur le site de Hockey Canada. Il n'y a aucun problème. Et nous, en fin de semaine à RDS, samedi soir et dimanche soir, on va vous présenter les 2 premiers matchs d'une série de 6 contre une équipe d'étoiles universitaires de l'Alberta. Habituellement, au cours des dernières années, on prenait une équipe étoile universitaire à la grandeur du Canada. On allait chercher les meilleurs joueurs. COVID oblige, on va s'en tenir à ceux de l'Alberta. Il ne faut pas oublier que là-dedans, là, il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey qui ont 22-23 ans. Alors, au cours des dernières années, la compétition a été très bonne pour l'équipe Canada junior qui aura l'occasion donc de jouer 6 matchs. Ça commence en fin de semaine, 28 et 29. Il y en aura également un les 5 et 6 décembre et les 12 et 13 décembre. Donc, 6 matchs préparatoires contre Étoile universitaire. Et ça, ça va nous mener à la formation de l'équipe là, le 13 décembre prochain. Il y a une nouvelle également qui a fait jaser un petit peu en fin de semaine. On a appris que la Fédération internationale demande à chacun des pays d'avoir tous les joueurs prêts pour rentrer dans la bulle au moins une semaine avant dans l'entourage de l'équipe. C'est donc dire que si les Rangers de New York ont l'intention de prêter Alexis Lafrenière à la formation canadienne junior, il faudrait que ça se fasse pour le 6 décembre. Donc, on parle de dimanche dans 2 semaines, de plus ou moins. Ce dossier-là, évidemment, est intimement relié à ce que la Ligue nationale va décider. Moi, j'ai l'impression que la Ligue nationale, on va avoir une bonne idée au début du mois de décembre, vers le 1er décembre, qu'est-ce qui se passe, parce que qu'on le veuille ou non, si on veut commencer le 1er janvier dans la Ligue nationale, il va falloir commencer des camps d'entraînement là, vers le 8-10 décembre pour les équipes qui n'ont pas pris part aux séries cet été et vers le 15 décembre pour les autres formations. Alors, il va falloir qu'on ait une réponse incessamment dans ce dossier-là. Mais la porte n'est pas fermée pour Alexis Lafrenière. D'ailleurs, petite parenthèse, en fin de semaine, lorsqu'un confrère journaliste a demandé si Dylan Cousins ou Kirby Dack pourraient être des candidats pour être capitaine d'équipe Canada junior, André Tourigny a dit « on n'est pas rendu là encore ». Il dit « on ne sait jamais tout à coup qu'on aurait un cadeau quelque part ». Alors, je pense qu'il faisait allusion à Lafrenière, évidemment, qui aurait fort probablement le C de capitaine si jamais les Rangers le cédaient pour qu'il puisse participer à un 3e mondial junior de suite. Petit message personnel également avant de terminer. Aujourd'hui, 23 novembre, c'est l'anniversaire de Jasmin Leroux, que vous connaissez à RDS. Alors, je lui souhaite bonne fête. 25 ans déjà, le temps file. Alors, bonne journée. J'espère que va passer de bons moments. Nous, on a célébré ça un petit peu en fin de semaine en famille. Alors, bonne fête, Jasmin. Merci à Olivier Côté à la technique, toujours impeccable comme travail. Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Et c'est Stéphane Leroux qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.